Bonjour, j'ai le grand plaisir d'animer cette semaine l'émission Une heure en Palestine pour vous faire partager une rencontre Mediapart au sud à Arles, nommée La Palestine au cœur. C'était une conversation passionnante sur l'œuvre de Mahmoud Darwish entre le président et cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel, et Elias Sambar, qui est ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, écrivain, historien, essayiste. C'est lui qui a traduit en français toute l'œuvre de Mahmoud Darwish. Mais avant, je vous rappelle que cette émission Une heure en Palestine, elle est animée par plusieurs associations, notamment Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez suivre nos activités et nos publications sur Facebook en tapant Palestine 13 ou BDS Provence. Cette semaine, par exemple, on vous invite à assister le 25 février du 17h à 19h à la librairie Montpetit, 142 La Canebière, pour assister à la présentation du livre de Sylvain Sipel, intitulé « L'État d'Israël contre les Juifs ». Ce livre a été publié à La Découverte en 2020. Cette rencontre sera animée par Pierre Stamboul de l'UJFP. Ce livre, il parle d'une nouvelle loi votée en 2018 au bénéfice seul des citoyens juifs. Imaginez par exemple en France qu'il y ait deux catégories de citoyens, par exemple les Français de souche et les autres. Donc, dans les bénéfices, dans les droits, et dans les droits qu'on bénéficie sont totalement différents. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec le vote de cette loi nation, en 2018 par le Parlement israélien. Intitulé donc de ce livre « L'État d'Israël contre les Juifs », présenté par son écrivain Sylvain Sipel le 25 février à la librairie Montpetit de 17h à 19h. Mais aussi entre le 4 et le 11 mars, une semaine nationale d'action pour dénoncer la complicité de Carrefour avec la colonisation de la Palestine et de contraindre ce groupe à y mettre fin. On a appris que le groupe français Carrefour a signé en mars 2022 un accord avec les entreprises israéliennes Electra Consumer Products et Yenot Bitan visant à franchiser leurs enseignes de distribution. Ces deux entreprises sont des acteurs directs et indirects de la colonisation de la Palestine par Israël, ce qui est un crime de guerre condamné par l'ONU. Donc, la semaine entre le 4 et le 11 mars, revenez donc sur notre page Facebook Palestine 13 pour découvrir ces actions pour dénoncer cette complicité de Carrefour entre le 4 et le 11 mars. Je vous laisse maintenant écouter la conversation passionnante sur l'œuvre de Mahmoud Darwish entre Edoui Plenel et Elias Sambar. Merci à vous.
Monsieur Elias Sambar. Oh. Merci à toutes et tous d'être là à ce rendez-vous d'amitié, de résonance, de complicité, de relation. Au fond, les Suds sont un de ces lieux qui sauvent la relation en ces temps de clôture, de fermeture, de haine parfois, de violence, de virulence, de distance, d'identité close, de guerre des mondes et mon identité contre ton identité, ma religion, mon origine, de diabolisation des différences et des dissidences. Ici, on sauve la relation, un mot qui était cher à quelqu'un aussi, qui nous est cher, Édouard Glissant. Évidemment, comme l'a dit Marie-Jo tout de suite, nous sommes ici en souvenir, en mémoire de Mahmoud Darwish, dont Elias Sambar rappelait ce midi que quand il terminait son récital en 2008, il a fait un signe de la main et Ses amis palestiniens, ses frères ont compris qu'il disait un adieu qui allait au-delà du public. Mais au-delà, ce choix résonne avec notre actualité récente. La Palestine s'est rappelée à nous ces derniers mois. Elle est entêtée. Ce peuple ne se laisse pas effacer si facilement. On essaye à chaque fois de l'effacer, de le reléguer, de le dissoudre dans un monde arabe indistinct, d'oublier qu'il a une histoire, d'oublier qu'il veut être lui-même avec sa culture, au fond, vivre comme les autres peuples, comme les autres nations, ni meilleur ni pire, mais simplement vivre, vivre en tant que peuple palestinien. Ici, nous sommes dans, et nous en parlerons beaucoup avec Elias dans cette ce côte-à-côte, comme il aime dire, cette conversation, ce duo de presque musical, j'espère. Nous sommes ici dans un lieu d'histoire, d'une très très longue histoire, ici à Arles, et de relations, un port, le mélange, les brassages, l'Empire romain était aussi fait de cela. Et nous sommes ici dans une nécropole. Et j'ai pensé en résonance avec ce que nous allons nous dire à une histoire linguistique, une histoire de mots. Il y a un mot dans notre langue, scrupule, avoir des scrupules, avoir un scrupule, être scrupuleux, se dire que l'on n'a pas été assez scrupuleux, pas assez attentif, pas assez précautionneux, scrupule. Or, ce mot a une drôle d'histoire. Il vient du latin, comme beaucoup de mots de notre langue, il vient du mot « scrupulus ». Mais le scrupulus n'était pas cette chose abstraite, le scrupule. Scrupulus désignait un petit caillou. En fait, ce qu'on a appelé depuis un caillou dans la chaussure. Le scrupulus, comme les Romains, comme nous aujourd'hui, nous aimons bien les sandales, et notamment les légionnaires faisaient des kilomètres dans des sandales de cuir. Et en fait, rien n'est pire quand on a des sandales, et donc des chaussures pas fermées, qu'un petit caillou qui se glisse entre la semelle et entre la lanière, et qui du coup vous pique, vous coince, vous dérange. Hein, il faut s'arrêter pour enlever le petit caillou. Eh bien, le scrupulus, en latin, c'était ça, le petit caillou. Bien, j'aime me dire que la Palestine est un sacré caillou dont on ne peut justement pas si facilement se débarrasser, jeter. Ce scrupule, au fond, nous rappelle notre inconscience, nous rappelle notre indifférence. La question palestinienne nous rappelle une histoire du passé, mais le présent de ce passé. L'hubris des peuples qui pensent qu'ils peuvent en dominer d'autres. L'hubris de l'aventure coloniale, dont en grande partie nous sommes nous-mêmes issus et que nous avons connus. Mais cette idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des peuples supérieurs à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des identités supérieures à d'autres. Bref, cette histoire qui nous est rappelée de manière tout évidente par la question palestinienne, c'est qu'un peuple qui en opprime un autre ne saurait être totalement libre. Et le débat au sein de la société israélienne, évidemment, ne fait que le confirmer, puisque plus cette colonisation dure, plus des monstres surgissent au cœur même de la société israélienne, des idéologies que l'on croyait impensables dans une nation issue d'un crime, un crime européen, le crime contre l'humanité, et l'on voit naître en Israël même des idéologies racistes, des idéologies exactement semblables à celles qui ont armé le crime dont ont été victimes les Juifs d'Europe. Mais au-delà de ça, c'est aussi un scrupule qui nous rappelle qu'on ne peut pas se débarrasser si facilement, justement, de questions de principe. C'est ça que font pour nous les Palestiniens, en refusant de disparaître. Cette idée que si cette question de principe, nous la laissons être piétinée, eh bien, nous-mêmes, nous allons devenir indifférents. Nous-mêmes, nous allons devenir indifférents aux injustices qui nous concernent, aux autres, aux migrants, par exemple, au monde, plus généralement. Derrière la question palestinienne, il y a cette question, au fond, de l'internationalisme, du fait que nous sommes un monde, en ces temps d'urgence écologique, un monde qui se tient, et que si on laisse se commettre des injustices qui bafouent tout le droit international, c'est le cas, les résolutions des Nations Unies, qui bafouent des principes élémentaires, eh bien, nous-mêmes, nous allons le payer quelque part. Enfin, et j'en terminerai là avant de passer à Elias et notre conversation, mais pour expliquer pourquoi nous, Mediapart, avons souhaité aussi cette rencontre. C'est aussi, vous savez, nous sommes des ouvriers du présent. Nous sommes journalistes, nous travaillons le présent. Mais le présent, on ne peut le comprendre que si on a une certaine conscience du passé. Le passé est vivant dans le présent. Et un des enjeux du présent, c'est justement de ne pas effacer, tuer le passé, ou de ne pas oublier le passé au point de devenir soi-même aveugle sur sa propre histoire. En l'occurrence, il y a quelque chose de terrible dans cette histoire, c'est que nous, l'Europe, qui avons commis le crime dont ont été victimes les Juifs d'Europe, nous nous sommes débarrassés de notre propre culpabilité sur les Palestiniens, qui n'y sont pour rien dans ce crime. La légitimité de la création de l'État d'Israël s'est faite dans un concert unanime des nations jusqu'à l'Union soviétique, dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale et du génocide, du coup donnant au mouvement national israélien, au mouvement dit sioniste, c'était son appellation, donnant sa légitimité. Mais cela ne voulait pas dire, et c'est bien ça, là où nous sommes hypocrites, aveugles, comme si nous n'étions pas concernés, que cette reconnaissance, que les Juifs du monde puissent se retrouver, avoir un endroit sûr, eh bien que ce soit un endroit sûr sur le dos d'un autre peuple. Et d'ailleurs, cela a provoqué dans le mouvement sioniste, Hannah Arendt notamment, à l'époque, s'est opposée à Ben Gourion sur certaines des questions qui étaient au cœur de comment se concevait l'État palestinien par rapport au peuple, ou l'État israélien par rapport au peuple palestinien. Comment il s'est construit, et vous en avez un témoin ici, il s'est construit par l'expulsion d'un peuple. Elias Sambar est né un an avant la création de l'État d'Israël à Haïfa. Il est parti avec sa famille expulsée au moment de cette création, comme beaucoup d'autres Palestiniens. Et il a vécu en exil au Liban et puis aujourd'hui en France. Alors, Elias, pour moi, est un ami, mais c'est une très belle personne. Et c'est une très belle personne vers laquelle je vais chaque fois, et nous avons de bonnes raisons, parfois ici en France, que je déprime, que je me dis que l'espoir se dérobe, que je me dis que la politique est vraiment pas à la hauteur, que l'actualité que nous avons à traiter, les corruptions, les mensonges, les impostures, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant. Alors quand je suis dans cet état d'esprit, je vais voir Elias. Parce que le lot de désespoir, je ne peux pas lui faire des leçons là-dessus. Le lot d'échecs, je ne peux pas lui faire de leçons là-dessus. Et là, et vous allez le découvrir, il me dit « Écoute ». Et puis, il commence à raconter une histoire et il a une caractéristique, c'est qu'il rit des histoires qu'il raconte avant de vous les raconter. Donc après, vous êtes guéri. Voilà, je voulais dire ça en lui disant du fond du cœur mon amitié. Alors, on va démarrer, on va emboîter notre conversation, et je vais m'arrêter, c'est lui qu'on va écouter. Mais je voudrais commencer par vous dire que Elias, évidemment, est un écrivain, est un auteur. J'ai amené plusieurs de ses livres, vous les retrouvez, « Le dictionnaire amoureux de la Palestine »,« Le bien des absents »,« Rendre un peuple absent »,« Palestine, le pays à venir », c'était un livre optimiste. Figure du Palestinien. En clair, ce sont tous des livres qui, à partir de la Palestine, nous parlent de nous, hein, et ne sont pas des livres repliés, fermés. Elias dit ceci pour dire comment il est, et c'est, nous sommes dans un lieu où on fait de la musique. Il dit, je l'ai rédigé, ce livre, ce dictionnaire amoureux de la Palestine, contre les miens, avec à l'esprit la réponse de Miles Davis, à qui l'on demanda un jour pourquoi il jouait toujours face à ses musiciens, dos au public, et qui répondit « Je joue contre eux ». C'est-à-dire tout à la fois dans la tension et l'osmose, d'en dehors et du dedans, à distance et à proximité, contre eux et tout contre eux. « Je me suis battu, poursuit Elias, en permanence avec et contre les miens, de moins en moins par nationalisme, de plus en plus par amour de la justice et du droit. Ce qui me fait écrire aujourd'hui que le jour où les miens auront retrouvé leurs droits, je pourrai enfin connaître une libération pleine, entière, affirmer que je n'ai plus de drapeau. D'ici là, en ces temps de sot délire sur les identités nationales, communautaires, tribales, je fais mien, et il en vient à un poème de Mahmoud Darwish, pour décrire les fleurs d'amandier dont la poésie m'accompagnera tout au long de ce dictionnaire. » Alors commençons par Mahmoud. Par la poésie de Mahmoud et par votre rencontre.
Je commencerai par vous dire combien je suis content d'être parmi vous et flatté et honoré d'être invité. Donc je me sens très très bien là. C'est un lieu que je connais un peu, qu'on a vu à plusieurs reprises. Je dis « on » parce que nous avons été plusieurs embarqués dans l'aventure de la traduction de l'œuvre de Mahmoud Darwish. Il y a également un éditeur qui m'a suivi dès le début. Bref, ce lieu n'est pas anodin et c'est pas simplement une conférence comme les autres ou une conversation comme les autres. Il y a bien sûr également mon voisin qui est là et qui est mon ami, tout simplement. Et là, il n'y a quasiment pas besoin d'expliquer. Il y a une chose qui est très importante. Quand vous avez une discussion avec un ami, c'est pas la seule chose que vous avez avec vos amis, mais comme nous sommes dans une sorte d'échange, ce qui est formidable quand vous discutez avec un ami, c'est que vous n'avez strictement rien à lui prouver. Vous n'avez pas de point à marquer dans un débat. Quand vous discutez avec un adversaire, vous êtes tout à fait tendu pour marquer des points. Là, vous n'avez rien à marquer. J'ai aucun point à marquer avec Eddy. Par contre, j'aimerais beaucoup qu'il ajoute des choses à ce que je vais dire et que moi j'ajoute de mon côté des choses à ce qu'il va dire. Et c'est comme ça que se font les conversations entre amis et pas simplement les face. C'est d'où mon expression le côte à côte et pas le face à face. Pour revenir à la poésie de Darwish, il faut que vous sachiez, c'est le plus grand poète arabe du siècle dernier, le plus grand indiscutablement. Et on a souvent l'habitude de le qualifier de poète palestinien. Ça n'est pas un poète palestinien, je rectifie à chaque fois, c'est un poète de Palestine. C'est un poète arabe de Palestine, car le pays des poètes, c'est leur langue. Je crois que personne parmi vous ne viendrait m'expliquer que Guillaume Apollinaire est polonais. Pourtant, il était polonais. Par contre, son pays, c'était la langue française. Donc, c'est un poète arabe de Palestine, ce qui veut dire que son territoire poétique, c'est cette langue magnifique, et son terreau est palestinien. C'est-à-dire qu'il est façonné, il est pétri, il naît de ce lieu, de sa faune, de sa flore, de ses nuages, de ses rochers, de son intimité profonde. Mais tout cela, après, repasse dans une langue. Et c'est elle, d'habitude, le vrai pays des poètes. Les poètes habitent leur langue et leur nationalité profonde, où la nationalité de leur œuvre est celle de leur langue. Le reste, c'est de quoi est fait son poème, son terreau. Que fait son terreau? Qu'est-ce qui fait qu'il chante? Comment il chante? Ainsi de suite. Darwish a été également, pendant très longtemps, jusqu'à sa mort, prisonnier d'une sorte d'amour très très fort de son peuple. Et pourquoi je dis prisonnier? Parce que on voulait à tout prix qu'il ne soit que le porteur d'une cause. Et je peux vous dire, puisque moi je ne suis pas traducteur, enfin, tout ce qui a été fait dans une relation d'amitié et de rencontre quotidienne quasiment. C'est-à-dire j'ai vécu à ses côtés et lui de son côté, la même chose à mes côtés. il était au-delà, il a défendu, il ne s'est jamais renié Darwish. Mais d'une part, il a défendu sa cause, mais d'autre part, il l'a portée ailleurs que sur le terrain très étroit. D'ailleurs, les campagnes, qui étaient souvent des campagnes de grande jalousie, qui étaient faites contre lui, étaient que c'était un poète de tract, que c'était juste un auteur qui rédigeait des tracts, qui n'était pas tellement doué, mais qui chevauchait une cause, la plus belle des causes des Arabes, la cause palestinienne, et qu'il en profitait pour faire passer ses poèmes. Bon, ce qui est abject et absolument médiocre, mais c'est vrai qu'il était très sensible à cela. Et il était également, et là je vais arriver au deuxième point, il était également très sensible à deux choses. La première, c'est qu'il avait une obsession de la maîtrise de la poétique classique arabe et qu'il était convaincu, et je pense qu'il avait mille fois raison, que ce n'est que parce qu'il avait cette maîtrise de la poétique classique qu'il pouvait produire une modernité poétique. Vous savez, c'est comme, bon, l'exemple est très très courant, c'est comme les très grands peintres abstraits, si vous regardez bien, ce sont d'incroyables dessinateurs. Leurs toiles ne sont pas des dessins, mais ils maîtrisent un certain nombre de choses pour pouvoir avancer, c'est-à-dire tordre le cou, c'est cela, à des règles, il faut vraiment les maîtriser. Vous ne pouvez pas tordre le cou aux règles sans les connaître. Donc Darwish est un poète extrêmement moderne, mais qui a également, au tréfonds de ses poèmes, une résonance classique magnifique. Et donc il est en continuité, et je pense que c'est une des choses, au-delà de la cause palestinienne, au-delà de la beauté des poèmes, c'est une chose qui a résonné très profondément dans les publics, puisque c'est un poète qui déclamait parfois devant 40 à 50 000 personnes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, un auditoire poétique de 40 000, 50 000 personnes, parfois dans des parcs, parfois dans des stades. Et là, j'en viens à une troisième chose. C'est un poète donc de cette tension, hein, entre ce classique et ce moderne. Le fait que chaque recueil a été un bond dans la forme. Il a tout le temps été obsédé par l'idée de sortir de chaque recueil par une nouvelle forme. Le contact. Mahmoud n'avait pas, à chaque fois qu'il avait un recueil, 50 000, 60 000 personnes qui venaient acheter le recueil. Par contre, le rapport au public arabe de Darwish passait par l'oreille. Et c'est pour cela que les récitals étaient des moments magiques. Il savait qu'il avait une très belle voix, il savait qu'il déclamait magnifiquement ses poèmes, et il se comportait comme une grande diva sur scène. Je vais vous raconter une chose très très amusante, mais en même temps qui en dit long. Nous étions un jour dans en voyage, pas en France, en Italie peut-être, pour un récital. Le récital devait avoir lieu le soir. Et on nous avait logés donc dans un hôtel, les deux chambres étaient contiguës. L'après-midi, moi j'entendais Darwish déclamer, puis il s'arrêtait et j'entendais quelqu'un applaudir, puis il reprenait. On est reparti, je lui ai dit, écoute, je t'ai écouté, qui est-ce qui applaudissait? Il m'a dit, c'est moi. Je lui ai dit, c'est toi qui applaudissais pendant que tu... Il me dit, oui. Je lui ai dit, pourquoi tu applaudissais? Il me dit, tu verras, c'est à ce moment que le public applaudira pendant le récital. Et je vous jure que c'est comme ça que ça s'est passé. Pour vous dire, là, cette maîtrise incroyable. Il y a aussi une autre dimension qui, je pense, et qui a été essentiellement dans mon travail de traducteur. C'est un poète du croisement de l'intime et de l'épique. Yannis Ritsos, le grand poète grec, a trouvé une des plus belles définitions, hein, de cette œuvre en disant, toi, tu es un lyrique épique, c'est-à-dire un poète de chuchotement et un poète des épopées. Et il est croisé, et de ce croisement entre le chuchotement et l'épopée naissait une forme de tension poétique magnifique. C'est pour ça que je crois que les œuvres sont toujours un croisement de chansons et de chants. Toujours, il y a de la chanson et du chant. Et cela était, bon, je continue parce qu'on pourrait parler des heures de cette œuvre. Donc, cette œuvre a été extraordinaire. Elle a été extraordinaire parce qu'elle a évolué en permanence. Elle a été à chaque fois renouvelée. Et surtout, elle s'est retrouvée dans une situation que tous les poètes enviraient. Darwish est le seul poète dans le monde arabe, où que vous soyez, sur un trottoir, dans la rue. Si vous prononcez son nom, le passant vous récitera de mémoire deux ou trois vers. Aucun poète arabe n'a ça. Où que vous soyez, dites seulement Mahmoud Darwish et vous entendrez deux ou trois vers qui ont été retenus par quelqu'un que vous croisez. Et à tous les niveaux de la société. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, vous pouvez l'imaginer. Le travail de la traduction a été un travail d'amitié, moi je ne suis pas traducteur, mais j'ai eu quand même une chance inouïe d'être dans cette proximité amicale. Moi, tout ce que j'ai fait a fonctionné dans l'amitié. La revue d'études palestiniennes était une histoire d'amitié, une histoire d'amitié, ça a toujours fonctionné comme ça pour moi. C'est un peu, je le disais à Mélie, c'est un peu mon luxe. J'ai ce luxe fantastique de n'avoir jamais travaillé avec des gens que je n'aimais pas. Ça, je pense à ça, la très grande richesse, c'est celle-là. Vous travaillez avec des gens que vous aimez. Donc voilà, tout cela a constitué une période, 27 ans de travail sur les traductions. Tout le temps de l'échange. Et surtout, un homme qui avait énormément d'humour. Je terminerai par là, comme beaucoup de Palestiniens d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense. Il a été invité une fois par un couple français à dîner. Il était seul et il m'a dit, l'homme était là, j'étais à table et la femme galopait entre la salle à manger et la cuisine, parce qu'il y avait tout le temps, as-tu le pain, tu as coupé le pain, le fromage, tu as sorti le fromage, est-ce que tu as éteint et cette femme courait. À un moment, Mahmoud se retourne vers le mari et lui dit, monsieur, est-ce que vous êtes vous aussi invité? Voilà. voilà le personnage.
Elias Sambar et Mahmoud Darwish avaient fait une petite faction secrète au sein du mouvement national palestinien qui n'avait que 4 membres et dont le nom s'appelait Tendresse. Tendresse, voilà. Les membres de l'association se doivent tendresse mutuelle. C'était l'article unique de cette association. Une question dernière sur Mahmoud Darwish qui fera transition avec l'étape suivante de notre petite grande marche là. Tu dis, c'est ce que tu as dit à propos de son style lyrique épique, tu dis que Darwish se considérait comme un poète troyen. Ah oui. Alors non pas comme le poète de la ville de Troie, mais comme l'un des enfants de cette histoire qui est au cœur, comme vous le savez, de l'Odyssée. Alors, pourquoi un poète troyen? Parce qu'on aborde un peu la question politique.
Tu as trouvé une très bonne transition. Écoutez, nous sommes dans un conflit sans solution depuis des décennies. C'est-à-dire que toutes nos vies se sont passées. Nous n'arrêterons pas de nous battre, mais c'est vrai que nous n'avons pas abouti. Et nous avons été emmenés à plusieurs phases, à plusieurs moments de ce combat, parce que c'est un combat, à commencer à maîtriser une chose qui pour moi est une notion vraiment exceptionnelle de la pensée, que nous n'avions pas au départ. Comment commencer à apprendre l'art des distinctions? Par exemple, quand nous avons commencé les négociations de paix, nous avions déjà publié des choses. Je dis nous parce que moi aussi je l'avais écrit. Quelle est la distinction entre une patrie et un État? Et nous n'avions consenti à aller aux négociations qu'en disant, nous négocions un État, notre patrie, on sait où elle est. Nous ne négocions ni son partage, ni sa division, ni on n'en fait cadeau à personne. Nous savons d'où nous sommes. Par contre, nous sommes dans une phase où, vu les rapports de force, vu l'évolution de l'histoire, nous sommes en train de négocier une situation dans laquelle notre État ne sera pas établi sur toute la terre de notre patrie natale. Là ce sont des moments très pénibles, hein. Ce n'est pas des moments faciles, mais je pense qu'il fallait faire les distinctions. Une des distinctions qui nous a aidés, qui continue à nous aider, je pense qu'elle est fondamentalement juste. Et je vais arriver à 3 à partir de ça. C'est la distinction entre la perte et la défaite. La défaite est stérile. Je pense que nous ne sommes pas défaits, mais je pense que nous sommes en permanence dans la perte. Et la perte est un état qui vous oblige à vous dépasser. La perte peut vous forcer, si vous ne voulez pas tomber dans la nostalgie mortifère, hein, à être tout le temps dans le dépassement. La défaite, c'est la stérilité et c'est la fin. Donc, nous sommes dans la perte. C'est à partir de cette notion de la perte qu'a commencé à se développer cette histoire du poète troyen. Et Darwish l'énonçait de façon très très belle. Il me disait, tu sais, on a l'Iliade, on connaît l'histoire donc, des Grecs, de ceux qui ont vaincu, de ceux qui ont... Mais je suis certain que Troie avait écrit également une épopée et qu'elle a disparu. Et moi, ma charge, c'est de réécrire le poème de Troie, qui est celui de la perte. Voilà, c'est pour cela qu'il disait « Je suis un poète troyen ». Et après coup, nous nous sommes mis à penser à une chose, et c'est très étrange, hein, sur les notions de qui est victorieux. Regardez bien, quelle que soit la conjoncture, ce sont toujours les assiégés qui ont la sympathie du monde, jamais les assiégeants. Même quand les assiégés sont dans leur tort, les assiégés ont toujours, toujours la justice pour eux et toujours l'émotion de ceux qui le regardent assiégé. Et je crois que Yasser Arafat, qui était un monstre politique, on n'avait pas compris pourquoi il faisait cela. Vous savez, il y a eu une quantité innombrable de sièges des combattants palestiniens. Et c'est ce que je vais vous dire est contraire à toutes les règles du combat, de la guérilla, etc. Yasser Arafat, chaque fois que nous étions encerclés, qui n'était pas encerclé, s'infiltrait et se faisait encercler avec ses hommes. Parce qu'il savait qu'à partir du fait qu'il était encerclé, il pouvait renverser la situation, quel que soit le rapport des forces. Et nous avions d'ailleurs presque une blague qu'on faisait avec lui en lui disant « Toi, tu es prêt à payer pour qu'on t'assiège ». Et il disait « Oui, c'est vrai, je suis prêt à payer pour qu'on m'assiège ». Donc voilà un peu l'histoire du poème troyen, qui est un poème perdu. Il me disait « Un jour, je l'écrirai hein. ». Et c'est vrai que ce n'était pas des mots. Il avait très très envie d'écrire cette épopée-là. Il y avait une autre épopée qui était en cours, hélas, nous ne la verrons pas, qui était une épopée sur les grands mouvements des peuples venus d'Asie et qui ont à un moment donné envahi tous les continents face à eux. Et il me disait « Ça va être bon, une épopée à la gloire des chevaux ». Et il y a une dernière chose, au fait, que je voudrais vous dire. Ce poète avait beaucoup de cousins, qui n'étaient pas forcément des poètes analogues, hein, mais il y avait des résonances. Mais il y en a un qui est tout le temps là. Tout le temps, c'est très très clair, qui est tout le temps là. Il le disait, on le voit dans les poèmes, c'est Lorca. Lorca est présent dans toute l'œuvre, et il fonctionnait vraiment dans une sorte de fraternité. Il y a un très beau texte qui est déjà traduit, dans lequel il rencontre la nièce de Lorca, qui ne réalise pas un peu ce qu'il est en train de lui dire. Il est en Espagne. Et il lui dit « Est-ce que vous savez combien nous l'aimons ?» Et la nièce ne comprend pas. Elle pense que bon, c'est peut-être quelqu'un qui admire les poèmes de son oncle. En fait, c'était bien au-delà de ça. Et il y a un très beau poème de Darwish dans lequel il y a un passage dans lequel il dit « Verte, verte la terre de mon poème », et il ajoute « Ces vers auraient pu être écrits par un autre poète », et c'est une allusion très très claire à deux vers magnifiques de Lorca, « Verde, verde, te quiero verde »,« Verte, verte, je t'aime vert ». Lorca est toujours là, il y a dans le cycle des poèmes andalous un poème qui se termine « et Enterrez-moi sous mon olivier avec Lorca ». Vous voyez, il y a une relation très très forte avec ce poète. Voilà.
Alors, on est passé par trois, et je voudrais, là, le poète non traducteur, parce que j'insiste, Elias dit, je ne suis pas un traducteur, mais je redis que pour donner vie dans une langue, la sienne, l'une des siennes, le français... L'œuvre de Darwish, eh ben, le poète, c'est lui. Darwish est un poète, mais Sambar est un poète aussi. Ben oui, forcément, puisqu'il donne mot à tout cela. Alors, je dis ça parce que l'autre, dans les multiples rôles que qu'assure et Elias dans son chemin, il y a celui, depuis maintenant bien pas loin de deux décennies, d'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. L'UNESCO, qu'est-ce qui est classé au patrimoine commun de l'humanité, tout ce qui, voilà, tout ce qui nous appartient, les ruines, l'archéologie, le passé qui nous permet de comprendre le présent, d'où nous venons, etc. Et je voudrais que, Elias, tu nous racontes ça. Comment, aujourd'hui, dans ton combat, qui, on l'a tous compris, qui n'est pas un combat identitaire fermé, clos, qui est un combat de principe de, sur la justice, à travers la question palestinienne, eh bien, il y a une question très politique, qui est celle des ruines, sur une terre qui n'est pas n'importe laquelle, qui est une terre où se mêle toute l'histoire de l'humanité, pas loin de là où ont été inventées les premières villes et l'écriture, la Mésopotamie, et qui est appelée la Terre Sainte. Ce n'est pas n'importe quoi, et tu as des très fortes pages et des forts refrains sur cette idée de qu'est-ce que ça veut dire être d'une terre que l'on appelle la Terre Sainte. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous parler de ça et nous dire, parce que c'est trop peu connu, les batailles acharnées que tu mènes à travers cette question de des ruines, des fouilles, de ce qui est sous le sous-sol, et combien c'est quelque chose de totalement vivant, où se joue, comment on écrit le présent à travers ce passé, ou comment on efface un passé pour créer un présent qui efface un peuple.
Quelques mots déjà pour commencer sur qu'est-ce qu'une terre sainte. On a tendance tous à confondre les lieux saints et une terre sainte. C'est-à-dire, la Palestine, le territoire palestinien, recèle beaucoup de lieux saints. Bethléem, les mosquées, le Saint-Sépulcre, et ainsi de suite. Ça ne suffit pas pour faire une terre sainte. C'est cela. Vous avez Lourdes, en France, qui est un lieu saint, la France n'est pas une terre sainte.
Ah merde alors.
Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait qu'une terre est sainte? C'est quand elle contient, elle est là sur son sol des lieux saints, mais c'est quand elle sanctifie tout ce qui s'y trouve. C'est donc une pesanteur très lourde à vivre. La Palestine est une terre qui sanctifie tout ce qui y est. Donc ça donne un rapport très particulier au religieux, hein, là, au concept du religieux. Elle est unique parce que c'est Terre Sainte, elle est unique parce que c'est le seul coin de la planète qui est considéré comme Terre Sainte pour les trois monothéistes. Il n'y a aucun autre lieu sur Terre. Et c'est un lieu très très réduit, hein, c'est moins de 40 000 km², hein, la Palestine, c'est très petit. Donc c'est une terre très particulière. À partir de cette notion de sainteté, et contrairement à tout ce qu'on voit, même dans les pays voisins, le rapport des Palestiniens au sacré est également très particulier. Non pas qu'ils sont plus ouverts, qu'ils acceptent les différences, ça c'est de l'idyllique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que leur rapport au religieux ne passe pas par le dogme, mais par le lieu. Ce n'est pas une adhésion, c'est-à-dire le fait que le personnage qui traverse toute l'œuvre de Darwish, qui est un musulman sunnite, c'est le Christ, le chrétien, ne veut pas dire que Darwish était chrétien, mais que tout ce qui s'est passé sur cette terre est à nous. De la Bible aux évangiles, au Coran, tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait la sainteté de cette terre, parce que nous sommes les enfants du lieu, donc ce n'est pas forcément par une ouverture aux dogmes, aux différents dogmes des religions, mais parce que le fait, nous sommes un peu le tabernacle de tout ce qui s'est passé chez nous. Et cela vous expliquera tout le rapport aux religieux en Palestine, que d'aucuns ont appelé la démocratie palestinienne. Ça, c'est un système politique, la démocratie, ce n'est pas une démocratie. Par contre, il y a une pluralité structurelle. C'est une terre plurielle. Si elle n'est pas plurielle, elle va mourir. Le danger que nous vivons aujourd'hui, c'est celui-là, qu'elle devienne d'une seule couleur. Le danger que représente Israël est celui-là, que ça devienne la terre d'une seule religion. Nous sommes de tout temps un pays pluriel, et c'est ce qui fait que nous sommes particuliers. Par exemple, vous pouvez tout à fait faire des confusions avec le Liban voisin. Je ne porte pas de jugement de valeur. Le Liban voisin est un pays multicommunautaire, mais qui est organisé en fonction d'un contrat entre les communautés de partage du pouvoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Vous êtes dans un lieu, c'est ça la spécificité de cette sainteté. Tout ce qui est là est à moi. Et donc voici mon rapport, y compris pour les laïcs et les athées. C'est à moi. Donc c'est dans ce contexte que nous avons... Je vais vous raconter une chose qui a eu lieu avec l'ambassadeur israélien. D'ailleurs, ils sont partis à force d'être embêtés parce que pendant 12 ans, nous avons fait voter tout le temps des résolutions sur Jérusalem qui ne leur convenaient pas. À un moment, ils ont dit l'UNESCO est devenue une sorte d'ambassade palestinienne. Nous partons. Ils sont partis. J'ai dit une fois à l'ambassadeur d'Israël, écoute, tu as une délégation palestinienne qui t'embête en permanence sur la question de l'esplanade des mosquées. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que toute la délégation palestinienne qui t'embête pour les mosquées chrétiennes, ce qui est vrai, par le hasard, ma délégation est entièrement chrétienne. Vraiment le hasard. Hein? Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, oui. Tu vois qu'il te faut encore des années avant de comprendre à quel peuple tu as affaire. Vous voyez, c'est une chose très très particulière en Palestine, et c'est une pratique du religieux extrêmement intimiste et simple. D'ailleurs, moi, souvent, j'appelle les Palestiniens les terres simples, et nous sommes les enfants simples de cette terre. Le conflit est très compliqué, mais nous sommes des gens très simples. Et c'est une force. Hein, c'est pas du tout un manque, cette simplicité-là. Donc, dans ce contexte, nous sommes en permanence, au niveau du travail diplomatique à l'UNESCO, en but à une sorte de dogme qui ne date pas de l'UNESCO, hein, qui a fonctionné à tous les étages de ce conflit, qui est que sur cette terre, l'antériorité vaut droit de présence exclusive. C'est-à-dire, si j'étais là avant toi, c'est que tu n'as pas le droit d'y être. Ça, c'est la grande invention de l'archéologie israélienne et toute la thématique de « nous étions déjà là, donc vous devez partir, puisque nous étions déjà là, vous êtes donc des occupants illégaux de votre propre pays ». Quand au XIXe siècle, bien avant qu'il y ait le projet sioniste, etc., l'anglicanisme anglais qui a été un peu le prélude hein, à ce mouvement, puis qui a été repris après par les Israéliens, prend le concept de la rédemption. Et très étrangement, c'est très très bizarre, il s'agit de la rédemption de la terre et pas des hommes. Arriver à la rédemption de la terre, c'est-à-dire la nettoyer de ceux qui la souillent, qui sont les humains qui y sont, en l'occurrence les musulmans et les chrétiens palestiniens. C'est très très étrange cette histoire de rédemption, hein. La rédemption est le mot qui est en hébreu, Adama, qui est la terre. Donc la terre doit être libérée de ses enfants. Et c'est par ce processus que, avec des histoires d'antériorité complètement fabriquées, on arrive à vous dire, vous êtes des sortes un squat, un gigantesque squat. Les vrais propriétaires sont revenus. Il est temps de vider les appartes que vous occupez et que vous n'avez pas le droit d'occuper, ainsi de suite. Dans cette démarche, vous comprenez à quel point l'archéologie n'est plus une science, mais elle devient un cheval de bataille de l'expulsion. Vous comprenez également pourquoi les colons à qui on vient de confier, ça très peu de gens le savent, Netanyahu a confié la totalité de la direction des fouilles dans les territoires de la Cisjordanie au conseil représentatif des colonies, où il y a des barbares absolus qui sont ni archéologues ni rien, qui chaque fois qu'ils tombent sur une poterie ou quoi que ce soit qui n'est pas hébraïque, comme ils disent, les démolissent. C'est-à-dire que nous avons des désastres déjà archéologiques dans certains fous. Donc vous comprenez bien que pour inscrire des sites, il y a des batailles qui n'ont rien à voir. L'inscription des sites, c'est la préservation de la culture, de l'histoire, de l'architecture, de la valeur, comme ils disent, la valeur universelle. Il y a bien sûr tout cela. Mais il y a autre chose, il y a le fait de dire qui est-ce qui a la souveraineté sur le lieu inscrit. Et là, nous avons, et d'ailleurs les Israéliens et les Américains l'ont très très bien compris, là nous avons gagné plusieurs batailles, parce que dans les conditions d'inscription, pour pouvoir être candidat pour inscrire au patrimoine mondial, vous avez deux conditions à remplir. La première s'appelle OUV, c'est-à-dire Outstanding Universal Value, c'est-à-dire la valeur universelle exceptionnelle. La pyramide d'Égypte, valeur, etc. Quand nous avons fait l'inscription de la basilique de Bethléem, on a dit quand même, hein, le Christ, c'est pas n'importe quoi, valeur universelle, j'ai pas besoin de prouver la valeur universelle exceptionnelle. Par contre, pour pouvoir faire acte de candidature, il faut que vous prouviez que le lieu est sous votre souveraineté. Quand la France va inscrire Versailles, personne ne va lui dire « Est-ce que tu es souveraine à Versailles ?» Nous, comme nous sommes occupés, il faut que nous prouvions que nous sommes souverains. Mais une fois que c'est inscrit, c'est des territoires de souveraineté, pas simplement du patrimoine mondial. Donc vous comprenez pourquoi les batailles sont mais d'une férocité que vous ne pouvez pas imaginer. Et la dernière qui a été la plus dure, vraiment la plus dure, ça a été quand nous sommes parvenus à inscrire Hébron. Quand même à Hébron, pour les Israéliens, il y a les tombeaux d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ils sont devenus littéralement fous en disant quand même comment... Et nous avons dit non, nous n'inscrivons aucune religion, on n'inscrit pas des religions au patrimoine mondial. Je suis en train d'inscrire plusieurs bâtiments où il se fait qu'il y a les tombeaux et qui sont chez moi. Ça n'a pas été facile, mais pour vous dire à quel point quand nous avons fait une autre bataille qui était féroce pour l'inscription de Bethléem, c'était compliqué de dire ça n'a pas de valeur. Par contre, les Israéliens ont commencé à s'approcher des églises, l'église arménienne, l'église orthodoxe, les latins, etc., pour leur dire faites attention, une fois qu'ils vont inscrire la basilique de Bethléem, ils vont commencer à la restaurer. Et là, il faut que vous sachiez qu'il se peut qu'il y ait des experts juifs dans vos églises, donc refusez l'inscription. Donc je me suis retrouvé avec des Israéliens utilisant des arguments antisémites pour m'empêcher d'inscrire. Et je dois avouer que le clergé était sensible aux arguments israéliens, hélas. Et nous avons dû convoquer tous les patriarches et leur dire en Palestine, la souveraineté est à l'État. Ce n'est pas vous qui avez la souveraineté sur les lieux. Nous avons la charge de vous protéger, on le fait en permanence, mais la souveraineté n'est pas à vous. Et nous avons restauré, et nous devions le faire à Noël dernier, mais Noël prochain, nous allons inaugurer la basilique restaurée qui est une véritable splendeur. Absolument, une vraie splendeur. Vous n'imaginez pas tout ce que nous avons dégagé des travaux de... Nous, par exemple, toute la voûte. C'est un temple romain qui au IIIe siècle a été transformé en église. La voûte, ça fait des siècles que vous avez toute la fumée des cierges était noire. Vous n'imaginez pas les mosaïques qui sont apparues sur la voûte. C'est un temple romain donc avec deux colonnades très très profondes. Ça n'a pas la forme de la croix qu'il y a d'habitude dans les églises. Les colonnes, nous les avons également restaurées et sont apparues sur toutes les colonnes des fresques faites par les Templiers qu'on ne voyait pas. Si certains parmi vous ont été dans la basilique, on ne voit pas le pied des colonnes dans la basilique. On voit les chapiteaux, on ne voit pas les pieds. Il y a un dallage de marbre qui s'arrête à une certaine hauteur. C'est dû au fait qu'il y a longtemps, il y a eu un tremblement de terre très très violent qui fait qu'après on a refait le dallage. Ceux qui ont fait le sol ont eu l'intelligence formidable de faire les dalles, de monter les dalles à 50 cm du sol initial. Or, le sol initial est une merveilleuse mosaïque qui fait toute l'église. Et donc, ils ont sauvé la mosaïque. Et j'espère qu'on va arriver à un stade où nous allons remplacer toutes les dalles, enfin, c'est du marbre, par un sol en verre, pour qu'on puisse voir un peu ce qu'il y a. Et ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de découvrir, en ce moment, nous sommes engagés dans la préparation d'inscription de Jéricho. Également, il y a... Vous savez, c'est un pays, de ce point de vue, qui est assez hallucinant. Hein. Il y a une densité de présence et de sites folle, vraiment folle. Mais donc, tout ça pour vous dire, c'est un combat pour l'architecture, c'est un combat pour la beauté, c'est un combat esthétique, c'est un combat historique, c'est un combat pour la souveraineté qui ne se pose pas aux candidatures des pays qui ne sont pas occupés, mais qui se pose pour nous.
Il y a, dans ce que vient de dire Elias, il y a pour moi deux choses très importantes, parce que vient de dire c'est un combat pour la souveraineté, mais justement une souveraineté qui n'est pas d'exclusion, qui est de pluralité, ouais. Et évidemment ça résonne totalement. Quand j'ai dit ce caillou dans la chaussure, ça veut dire que la cause palestinienne dérange aussi toute une partie du monde arabe, qui est un monde aussi dont les dirigeants, dont les idéologies religieuses, dont les monarchies sont des monarchies d'exclusion. Et nul hasard si ce sont maintenant que les rapports de force tournent, ces pays-là qui lâchent la cause palestinienne, ouais. Et qui en fait ne l'ont soutenu un peu, je dirais un peu grossièrement, comme la corde soutient le pendu.
Mais tu sais, comme ton petit caillou, elle va pas partir. T'inquiète pas.
Non. Et alors, non, justement, j'en viens.
Ils vont y revenir. Ils n'ont pas le choix.
Oui. Non, je sais que tu. Alors, il y a un autre mot pluraliste, souveraineté, mais il y a un autre mot très important que tu as dit, et c'est là que je voudrais qu'on termine, que tu parles de ça, ce qui est le mot esthétique. Elias fait aussi, vous avez peut-être certains eu l'occasion de le voir à l'Institut du Monde Arabe, il fait à Paris, et c'est dans des réserves, il en est à la 4e ou 5e, je ne sais plus, exposition, le musée d'art moderne mondial de la Palestine, hein, avec une collation d'œuvres qui un jour auront leur lieu en Palestine, notamment il a fait ça au début avec la complicité de quelqu'un que vous connaissez, Ernest Pignon Ernest, hein, qui a aidé beaucoup, et puis toutes sortes d'artistes qui ont donné des œuvres. C'est vraiment un trésor magnifique. Et du coup, c'est la question que je voudrais que tu éclaires pour nous. J'ai dit tout à l'heure que je vais te voir parce que je sais que toi, tu as toutes les raisons de désespérer. Et du coup, si j'ai un coup de cafard, je parle politique, hein, je parle sur le bien commun, sur l'horizon des causes communes que nous partageons. Eh bien, quand je vais te voir, je me dis, bon, arrête de te plaindre, parce que lui, il rigole, il raconte, et il te raconte plein d'histoires, et il ne se plaint pas alors qu'il est saisi. Depuis toute une vie entière, Elias aurait pu faire plein d'autres choses que simplement être, même s'il fait toutes ces choses-là, aussi totalement identifié avec un combat qu'il a requis, et comme je l'ai dit dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, auquel il ne se réduit pas, et comme il dit, un jour où tout ça deviendra normal, ben moi je pourrais tranquillement, j'ai pas l'objectif de revenir dans la maison natale à Haïfa, je vis ici. Donc je voudrais te demander quel est le secret. Est-ce que c'est l'esthétique, justement ? Quel est le secret qui fait... nous sommes dans ce pays-ci, dans un moment de grande basse eau, pour en tout cas celles et ceux qui sont du côté de l'égalité, de l'émancipation, voilà, de grands doutes, de grandes inquiétudes aussi. Alors, quel est ton conseil ? Quelle est ta recommandation ?
Ce n'est pas un conseil, mais c'est une chose très simple.
C'est une expérience partagée,
très,
disons.
Très, très simple. Je me suis très, très jeune, je ne savais pas pourquoi, maintenant je peux l'expliquer, identifié au peau rouge. Moi, dans tous les films d'Indiens et de cow-boys, moi, je m'identifiais au peau rouge. Et je me considérais comme un peu rouge. D'ailleurs, mes filles, jusqu'à présent, se moquent de moi en me disant, voilà, tu es un Indien, etc. J'ai compris après par la suite d'où me venait un peu ce goût. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé sur la conquête de l'Ouest, qui ressemble étrangement à ce que nous avons subi dans l'idée de l'expulsion et de la fabrication de l'absence. Mais je crois que, pour l'enfant, hein, j'ai toujours été extrêmement séduit par le panache. J'ai toujours trouvé que les guerriers Cheyenne, Sioux, Comanche avaient infiniment plus de panache sur leurs chevaux que les cow-boys, que je trouvais d'une grossièreté absolue. Et bien sûr, ça ne correspond pas du tout aux réactions des enfants d'habitude. Hein. D'habitude, les enfants aiment bien les tireurs du western. Par la suite, donc, c'est pour cela que je réponds un peu indirectement à ta question esthétique. Il y a quelque chose qui relève de la beauté, je crois, dans la résistance. Et Jean Genet m'avait une fois dit, tu sais, le jour de la libération de Paris, pendant 2 heures, j'étais dans les rues et tout d'un coup, il s'est passé une chose très, très étrange. Tout le monde était sublime de beauté. Et je pense qu'il y a de ça dans la résistance, dans l'idée de résister. Bon, pour moi, il y a ça. Mais je ne le fais pas simplement pour être beau, je vais passer au reste. C'est une question que j'avais posée à Edgar Morin. Je lui ai dit, quand tu as rejoint la résistance, est-ce que tu avais la moindre certitude que vous alliez gagner ? Il m'a dit non. Nous étions convaincus que nous allions tous passer, mais nous étions tous convaincus qu'on ne pouvait pas ne pas y aller. Et il me dit, et tu sais, on a commencé à avoir un peu d'espoir lorsque Hitler a envahi la Russie. Là, on s'est dit, ça pourrait peut-être basculer. Mais avant, bon, donc est-ce que c'est une forme suicidaire ? Je ne pense pas. Et là, je pense que c'est vraiment le nœud de toute l'histoire. Beaucoup de personnes me disent, bon, quand même, hein, tu commences à avoir plus de 74 ans, tu dis que tu as rejoint la résistance palestinienne, tu avais 20 ans quand même, ça fait un moment, ça ne s'arrête jamais. Ma réponse est très, très simple. Un engagement n'est pas une étude de marché. Vous ne suivez pas une cause parce que vous avez calculé qu'elle réussirait ou pas. Ça n'a rien à voir avec du désespoir ou du nihilisme. Vous suivez une cause parce que vous vous dites « je ne peux pas vivre autrement ». J'aime pas l'injustice, j'aime pas le mépris des pauvres gens, j'aime pas. Donc voilà, je ne sais pas faire autre chose. C'est pour cela qu'on dure sans fin. Moi, je sais qu'on passe par des moments très, très durs, mais là, j'ai immédiatement l'idée de la perte et pas de la défaite qui vient me donner un peu de courage. Mais fondamentalement, je n'y ai pas été en me disant « j'ai toujours souhaité gagner, j'ai toujours souhaité, je me suis battu pour que le droit soit au rendez-vous. Mais, je ne peux pas vivre autrement, parce que j'étoufferai autrement, c'est tout. C'est presque égoïste. » C'est pas héroïque, hein. Je ne peux pas vivre autrement. J'aime pas l'injustice, voilà, c'est tout. Je supporte pas voir des gens qui méprisent d'autres gens. Je supporte pas de voir des gens qui sont dans la faiblesse de la misère. J'aime pas ça, c'est tout. Et donc, on se bat. Donc, je sais pas si de notre vivant, nous verrons l'avènement du droit en Palestine. Mais par contre, on aura vécu de très beaux moments parce que nous aurons été en accord avec nous-mêmes. Je ne dis pas, je n'ai pas honte de me raser, mais vous savez la formule habituelle, devant le miroir, les matins je me rase. Être en accord avec soi, je crois que c'est une chose fondamentale. Et c'est ça qui fait durer. Cela dit, ce n'est pas uniquement cela, parce qu'une résistance est ponctuée, contrairement aux images qu'on en a, de moments de jouissance, de rire exceptionnel. Parce que vous ne réalisez pas à quel point le fait d'avoir la conviction même avec votre peau dans la balance. Donc il y a du risque que vous êtes en train de changer le monde par rapport à des choses que vous n'aimez pas, pour que des choses que vous aimez soient là et euphoriques. C'est pas du tout, et c'est pas de l'inconscience, hein, parce qu'on sait, on sait à quelle fois il y a eu le danger, on a tout vécu, hein. Donc elle vous le rend bien, hein. Ce que je voudrais dire, c'est que pas du sacrifice. C'est pas du tout du sacrifice. Voilà.
On va terminer. Il a dit, voilà, c'est tout, hein, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. C'est tout. Voilà. Terminé, puisqu'on a commencé un petit signe à Mahmoud Darwish, Elias, au début de ce dictionnaire amoureux de la Palestine, dit ce poème de Darwish qui l'accompagne autour des fleurs d'amandier. Je vous en lis la fin. Si un écrivain parvenait à une brève description des fleurs d'amandier, la brume se rétracterait des collines et un peuple, dirait à l'unisson: les voici, les paroles de notre hymne national. Les fleurs d'amandier. Moi, je veux vous... À chaque fois qu'on fait cette conversation, il y a un poème, évidemment, avec les mots d'Elias, de Mahmoud, que je cite à chaque fois, qui est celui-ci. Pense aux autres. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu te libères par la métonymie, pense aux autres qui ont perdu le droit à la parole. Quand tu poses aux autres lointains, pense à toi, dis-toi, que ne suis-je une bougie dans le noir ? Bien, merci de nous avoir éclairé, Elias.